Bonjour frères et sœurs. J'ai demandé à quelqu'un ce matin s'il ne voulait pas me remplacer. Il ne m'a toujours pas répondu. Alors, je vais dire encore à nouveau merci au pasteur Serge et aux anciens qui m'accordent encore la possibilité, malgré moi, de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Mon cœur palpite, j'ai besoin un peu de temps pour... C'est un moteur diesel, hein, pour que ça puisse prendre de l'élan, pour que ça puisse démarrer. Comme pendant ces derniers jours, nous entendons des choses qui se passent dans notre monde. Bien évidemment, je ne vais pas parler de ça, mais en tant qu'enfant de Dieu, que ce soit vous ou moi, nous ne pouvons pas rester indifférent à ces choses qui se passent dans notre monde. Il s'agit de la guerre. La Bible nous dit, nous entendons parler des guerres, une nation qui s'élève contre une nation. Si vous voulez, ces nouvelles ne sont pas réjouissantes, mais ça fortifie notre foi. Pourquoi je dis ça? Ce sont des choses qui ont été écrites, prévues depuis bien des millénaires, depuis bien des siècles avant nous. Et nous avons la chance, alors quand je dis nous avons la chance, nous les voyons s'accomplir sous nos yeux. Et moi, ce que j'ai envie de dire par là, ça me fait comprendre que la parole de Dieu est crédible. Vous comprenez? C'est-à-dire que des choses, la Bible, la parole de Dieu a prévu depuis, et aujourd'hui nous les voyons s'accomplir sous nos yeux. Ça veut dire que la parole de Dieu est digne de foi. Ce que dit la parole de Dieu est la vérité. Et nous avons une pensée pour nos bien-aimés, malheureusement. Alors, merci Frédéric, parce que tu as déjà prié. Je vous propose, comme la dernière fois, j'ai eu à vous parler, je vous ai parlé en Éphésiens chapitre 1er, encore ce matin, avec la grâce de Dieu, j'espère vous parler encore en Éphésiens chapitre 2. La lecture, vous allez voir, c'est comme si c'est une lecture qui a été déjà commencée. Comme pasteur Serge l'a commencé, je lui avais dit que là, il était en train de me couper l'herbe sous les pieds, parce que c'était depuis... J'ai pris connaissance que je devais parler. J'ai commencé à travailler ce texte. Et puis tout à coup, il a pris un bout là-dedans. Et je lui ai dit, là, ce n'était pas bon. Bon, enfin, quand je dis ça, ce n'est pas méchant. Hein. Et donc, je souhaite vous parler de la part du Seigneur en Éphésiens chapitre 2. Je vais vous faire la lecture à partir du verset 11 au verset 18. Éphésiens, c'est une épître qui est écrite par l'apôtre Paul. Alors, je vais prendre mes lunettes. Parce que sans quoi je vais avoir des difficultés. Je vous fais la lecture. Je vous lis Éphésiens chapitre 2, versets 11 à 18. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont par la chair, par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit des cités en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Je suis au verset 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé les murs de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances, dans ses prescriptions, il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme, nouveau en établissant la paix. Il est réconcilié avec Dieu l'un à l'autre en un seul corps, par la croix en déduisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Amen. J'intitule le thème de notre partage de ce matin, Juifs et païens forment un seul corps en Christ. Notre sujet, Juifs et païens forment un seul corps en Christ. Ça va, vous êtes là, vous m'entendez bien? Dans le texte du verset 11, nous avons deux groupes de personnes, nous avons païens et juifs. Si vous ne voulez pas dire païens, vous pouvez dire les juifs et les non-juifs. Et vous savez que du temps de Paul, de l'apôtre Paul, qui a écrit cette épître de Éphésiens, j'ai envie de dire que c'était une connotation très négative pour nous les païens. Alors quand on dit païen, il faut se rappeler que tous ceux qui ne sont pas juifs sont païens. Tous ceux et celles qui ne sont pas de la lignée d'Abraham, nous sommes tous païens. Et ça avait créé une dissension quelque part. C'est comme si il y avait, c'est pas comme si, c'est ça voulait dire de l'époque. Il y avait de la bonne personne, ou du moins ce qu'il y avait de la mauvaise personne. Parce que la connotation païenne, c'est quelque chose qui sonne mal. Et ça a une portée très péjorative. Alors nous avons deux groupes de personnes, comme je vous dis. Il y a les juifs et les païens. Un juif, c'est qui un juif? Les juifs, avait pour avait Dieu, enfin, avait, par exemple, quand nous lisons Deutéronome chapitre 6, verset 4, le pasteur l'a rappelé la fois précédente, les Juifs, il est monothéiste, pour lui, il n'y a qu'un seul Dieu, pour le Juif. Et alors, pour nous situer dans le contexte de ce que je vous parle ce matin, comme je disais tantôt, les Juifs, c'est tous ceux qui sont descendants d'Abraham avec les 12 tribus d'Israël. Or, comme Abraham avait reçu l'appel des dieux, et Dieu a voulu faire de lui un homme, Dieu a voulu faire d'Abraham un prototype, et c'est d'Abraham, avec la promesse que Dieu lui avait faite, tout en lui promettant d'avoir un fils, et c'est avec Isaac, et d'Isaac qui allait avoir Jacob, et ainsi de suite, les 12 tribus d'Israël. Et c'est de là est composé le peuple juif. Il faut savoir que la religion qu'ils ont, c'est le judaïsme, mais les juifs, c'est tous ceux qui sont descendants d'Abraham. Comme je vous disais, pour le juif, il y a un seul Dieu. Le texte des Deutéronomes, chapitre 6, verset 4, qui nous dit, c'est la confession de foi des enfants d'Israël. Il y a un seul Dieu, pas multiple Dieu, pour les juifs. Mais tandis que pour les païens, c'est là que je vous dis que ça sonnait mal, ça avait une mauvaise appréciation, parce que les païens, c'était des gens qui avaient multiples dieux, D-U-D-I-E-U-X, les deux minuscules, bien entendu, c'est des gens qui adoraient, qui avaient toutes sortes de divinités. Les païens pouvaient adorer un arbre, les païens pouvaient adorer un animal, les païens pouvaient vénérer le soleil, les païens pouvaient aussi vénérer la lune, les étoiles, voilà. Donc, du coup, le païen avait une pluralité de dieux, du coup, ils étaient polythéistes, et tandis que les juifs, eux, ils sont monothéistes. C'est quoi ça veut dire? Donc, eux, ils ont un seul Dieu. Ça, c'était deux groupes de personnes, ils ne s'entendaient pas. Il y avait toujours, si j'ose dire, ils s'écoutent toujours. Entre eux, il n'y a pas de relation. Comme vous connaissez l'histoire, par exemple, entre les Juifs et les Samaritains. Alors qu'ils étaient quelque part cousins. Aussi, dans le texte, toujours le verset 11, qui nous parle de ces deux mots-là, circoncis et incirconcis. Il est toujours question des juifs et des païens. C'est de ça qu'il s'agit. Mais nous voyons que Dieu avait demandé à Abraham de se faire circoncire. La circoncision, c'est quoi la circoncision? C'est juste une intervention dans le corps. Ça concernait uniquement les Juifs, tous ceux qui étaient descendants d'Abraham. Et du coup, chers frères et sœurs, ça leur a donné une sorte de fierté. C'est comme quoi ils étaient supérieurs à nous, quelque part. C'est ça voulait dire, quelque part. Tout simplement. Mais aujourd'hui, pour nous, ça n'a plus lieu d'être, ça n'a aucune importance. C'est que pour nous, c'est la foi en Jésus-Christ. Et c'est avec la mort de Jésus-Christ, nous aurons l'occasion de voir ça, la mort de Jésus-Christ est venue, avec la mort de Jésus-Christ a mis fin à tous ces préceptes, et toute cette pratique qui se faisait dans le temps, et que quelque part, je dirais, il n'y a plus des races supérieures ou des races inférieures. Comme le thème de notre partage, c'est « Païens et Juifs forment un seul corps ». Pour les Juifs, ils avaient certaines tendances, ils étaient supérieurs aux païens. Et l'apôtre Paul, alors c'est très important, l'apôtre Paul, lui, qui était juif, qui était de la tribu de Benjamin, a pointé du doigt pour taper le poing, pour dire non, c'est pas une petite intervention extérieure sur le corps qui fait de nous enfants de Dieu. Simplement, c'est que c'est par la foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas une petite opération, une petite intervention, mais aujourd'hui, c'est en acceptant, c'est très important, c'est en acceptant le sacrifice que Jésus a offert, le sacrifice que Jésus a fait sur la croix, et c'est ça qui nous justifie aujourd'hui. C'est le sacrifice, quelle que soit la personne, nous n'avons rien, nous pouvons faire qui peut quelque part nous donner quelques avantages pour dire que oui, parce que je fais ci, parce que je fais ça. Non. Il faut tout simplement comprendre que le salut, c'est une question de grâce. Le salut, c'est une question de grâce. Ce n'est pas une question de ce que je peux faire ou parce que je donne un gros chèque à l'Église ou dans la société quand il y a un tremblement de terre, par exemple, je signe un gros chèque. C'est bien de pouvoir aider, mais ça ne peut pas nous donner... on ne peut pas acheter la grâce, dis-tu. La grâce. Nous poursuivons le verset 12 qui nous relate 5 points. Et l'apôtre Paul était en train de dire à ces païens d'origine grecque, disons nous aussi, hein, parce que de ce temps-là, Paul parlait aux Grecs, il parlait aux païens, des païens convertis hein, à l'église d'Éphèse. Mais aujourd'hui, c'est aussi pour nous. Heureusement, Jésus-Christ est venu. La mort de Jésus-Christ a sauté plein de barrières. Et au verset 12, Paul disait aux Grecs, aux chrétiens d'origine grecque de l'époque, les païens d'origine grecque de l'époque, il leur disait au verset 12, c'est très important. Vous savez que les Juifs avaient plein de promesses. Plein des alliances. Et c'est de ça qu'il s'agit. Le verset 12, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça que nous allons parler. Au verset 12, il nous dit, Paul les rappelle. Il leur dit, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, avant d'être enfant de Dieu, quelle a été leur position. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils étaient sans Christ. Or, alors, il y a un nom aussi, sinon on ne voulait pas dire païen, on pouvait les appeler aussi gentils, goyim, tout ça c'était des noms, ou bien on nous appelait aussi les nations. Quand on dit les nations, l'exclusivité faite, les Juifs n'y faisaient pas partie, c'est que le monde entier, comme je vous disais, c'est tous ceux qui sont descendants d'Abraham, qui sont Juifs. Quand on parle de tout ce qui est goyim, tout ce qui est gentil, tout ce qui est incirconcis, c'est nous. Mais l'apôtre leur disait que voilà, avant de venir à Christ, comment a été leur position? Ils étaient sans Christ. Vous étiez sans Christ, privés du droit de cité en Israël. Être privé du droit de cité en Israël, ça signifie hors de la portée divine. Ça veut dire quelque part, c'était des gens maudits. C'est ça veut dire. Ils n'étaient pas couverts quelque part. Ils n'étaient pas bénis. C'était des gens qui étaient maudits. Heureusement, Jésus-Christ... Rappelez-vous, quand Dieu avait choisi Abraham, c'était... Si nous retournons un tout petit peu en arrière, Adam a fait défection, mais le plan de Dieu demeure. Malgré Adam, le péché est entré dans le monde, mais progressivement, le plan de Dieu demeure et Dieu va choisir un homme dans la personne d'Abraham avec qui Dieu a fait alliance. Et le plan de Dieu demeure et c'est de là, si nous remontons un tout petit peu en Genèse chapitre 3, verset 15, le plan de Dieu, de là, il devait y avoir le fils de la femme qui devait naître pour relever le Messie, pour relever tous les défis. Adam a fait défection, le plan de Dieu demeure, et Dieu va choisir Abraham, et de Abraham, il devait y avoir une nation, et cette nation, s'agissant d'Isaac, Jacob, et ainsi de suite, et de la tribu, il y avait les 12 tribus, il y avait la tribu de Juda, et c'est dans cette tribu-là que Jésus est issu, et tout le cheminement de tout ce que je suis en train de vous dire, ça devait s'accomplir dans la personne de Jésus-Christ. Et lorsque l'apôtre Paul disait aux chrétiens, aux païens d'origine grecque de cette époque, à l'église d'Éphèse, ils étaient sans Christ, ça veut dire qu'ils n'avaient pas de Messie, ils n'avaient pas la ligne directive. Et je continue toujours le verset 12, « Privé du droit de cité en Israël, étranger aux alliances. » Étranger aux alliances, ça veut dire que les bénéfices de la promesse divine étaient réservés uniquement aux enfants de la... aux enfants d'Israël. Alors, c'est comme si nous étions laissés pour compte. Nous étions abandonnés. Nous étions livrés à nous-mêmes. Mais le plan de Dieu, c'est que Dieu a voulu faire un seul peuple. Les Juifs et les païens forment un seul corps en Christ. Si je continue toujours, ils étaient sans espérance. Les enfants d'Israël, ils avaient l'espérance, un jour, il devait y avoir un Messie. Et le Messie, sa mission, c'était de venir pour relever les défis, pour les délivrer de l'occupation romaine. Et que nous, les païens, nous n'avons pas tout ça. Nous étions... livré à nous-mêmes comme ça. Mais le plan de Dieu demeure. Et nous étions sans Dieu. C'est le mot aujourd'hui. Beaucoup d'entre nous, on a peut-être une idée de ce mot. Nous étions sans Dieu. Quelque part, nous étions des athées. Comme le païen, pour les Juifs, carrément, c'était des gens, le mot est fort, pardonnez-moi, mais c'est ça, c'était des gens impurs, c'était des gens souillés, c'était des gens, des idolâtres, c'est des gens qui adoraient plusieurs dieux, bien entendu, avec les petits dieux, pour être précis. Donc, nous étions livrés à nous-mêmes. Mais en Jésus-Christ, les choses, il va y avoir une nouvelle donne en Jésus-Christ. Bien-aimés, je vais dire juste cela, dans une assemblée quelconque, où là le nom de Jésus-Christ n'est pas évoqué, dans une assemblée, là Jésus-Christ n'a pas sa place, franchement, je ne suis pas en train de créer une religion, mais pour moi, dans une assemblée, là où le nom de Jésus-Christ n'est pas en tête de liste, j'ai envie de dire à quoi ça sert. Parce que c'est Jésus-Christ qui a payé le prix. C'est Jésus-Christ qui nous a libérés. C'est Jésus-Christ qui a souffert à la croix. C'est Jésus-Christ qui a donné sa vie. C'est Jésus-Christ qui, alors que ce mandat qu'il avait, ce n'est pas quelque chose. Écoutez, maintenant, à l'instant même, au moment que je vous parle là, si je prends l'escalier pour monter, pour aller sur le parking, je ne sais pas qu'est-ce qui m'attend. Non, en cette minute même que je vous parle, je ne sais pas. Mais Jésus-Christ, son agenda était chronologiquement programmé. Il savait tout. Il savait tout. Il a laissé sa gloire, sa majesté, son trône, sachant tout ce qu'il attendait, mais il est venu pour donner sa vie délibérément pour nous racheter. Je suis au verset 13, verset 14. C'est là la donne va changer. Mais maintenant, en Jésus-Christ, hein, les deux groupes qui étaient opposés, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez éloignés, les païens, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Le verset 14 va nous aider à faire une petite historicité. Je vais vous demander je ne vais pas vous demander de le cocher dans votre Bible, mais moi je le fais. Entre le mot mur au verset 14, le texte nous dit au verset 14, car il est notre paix, lui ici, il s'agit de Jésus-Christ, lui qui des deux n'en a fait qu'un, les deux groupes, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Les murs de séparation, les murs. Il y a un historien qui s'appelle, beaucoup qui ont l'habitude de lire la Bible, probablement vous avez déjà pris connaissance de cet historien qui s'appelle, un historien juif, qui s'appelle Flavius Joseph. Cet historien nous dit que, je suis au verset 14, hein, d'accord? L'historien juif Flavius Joseph nous rapporte des faits. Je vous demande vraiment de prêter attention à cela. Flavius Joseph nous rapporte, il nous dit, par exemple, comme je disais tout à l'heure, les païens, pour les juifs, n'étaient pas admis. Et pour eux, n'étaient pas les bienvenus. Flavius Joseph lui dit que à Jérusalem, il y avait des panneaux. Alors, il y a des endroits qui disent que c'est en trois langues. Il y a des endroits qui disent que c'est deux langues. Je ne veux pas semer le doute dans votre cœur. Ce n'est pas ma mission. Mais la seule chose, au temple de Jérusalem, les païens n'avaient pas le droit d'y rentrer. Vous le savez, ça? Je vous prends quelques exemples. Vous, moi, nous qui conduisons, il y a certaines fois, il y a des parkings, malgré à leur nu exposé, parfois on voit, on met des plots, on nous dit, et c'est réservé aux résidents. Comprenez bien. Et il y a des fois, à certains endroits, on voit où c'est marqué interdit à toute personne étrangère. Vous avez déjà vu ça? Alors, à Jérusalem, le temple, c'était un endroit qui était réservé. Je vais juste vous dire quelque chose qui va vous rappeler. Vous vous rappelez que Jésus-Christ était entré dans le temple avec un fouet. Il avait fouetté certains. Et c'était juste dans cette partie que les païens... Si vous regardez, je voulais demander au pasteur d'afficher ça, mais bon, avec le temps, je n'ai pas osé. Mais si vous regardez le temple de Jérusalem, vous verrez comment l'enceinte est cadrée. On nous dit que il y avait 13 blocs de béton qui signalait l'interdiction. Et 13 blocs de béton, et c'était écrit interdit en 3 langues ou 2 langues. Alors, comme je vous dis, je ne veux pas semer le doute dans votre cœur, mais de cette époque-là, les langues qui étaient parlées, c'était le grec, c'était le latin et l'hébreu. Pourquoi ? Parce que dans le bassin méditerranéen, il y avait les Grecs, il y avait le Roumain, et il y avait l'hébreu. C'était ces trois langues-là qui étaient parlées. Or, souvent, c'était ces gens-là qui se rendaient à Jérusalem. Donc, il y avait une interdiction aux païens, aux impurs, de franchir ces limites. Et s'il vous plaît, c'était sous la peine des morts. Et oui. C'était si quelqu'un qui se faisait prendre, eh bien, il allait payer ça au prix de sa vie. Pourquoi je prends cet exemple? C'est juste pour vous montrer, il y avait des barrières sociales. Vous savez qu'aujourd'hui, vous et moi, nous connaissons, quand on parle des clichés, si vous habitez tel ou tel endroit, dans tel ou tel département, tel ou tel secteur, parfois, vous voyez ce que je veux dire? Je veux pas. Or, si vous avez des cheveux comme moi, l'autre il a des cheveux un peu différents, celui qui est cultivé ou celui qui ne l'est pas, vous savez, tout ça, parfois ça crée des soucis. Donc, les Juifs et les païens, nous, ça n'allait pas ensemble. Mais, heureusement, le plan des dieux, comme je vous disais depuis tantôt, le plan des dieux demeure et se poursuit. Et de là, dans la personne d'Abraham que Dieu avait choisi, duquel Abraham, c'est-à-dire qu'il devait y avoir Isaac, et Isaac, il devait avoir Jacob, je parle des 12 tribus d'Israël, et de Jacob, les 12 tribus, il y avait Judas, et c'est de cette tribu que Jésus est issu, et ça perpétue jusqu'à la naissance de Jésus-Christ, qui est venu, voilà, Jésus est venu pour nous racheter, pour nous sauver. Alors, toutes ces distances qui existaient, il y avait certains endroits où on ne pouvait pas, mais Jésus est venu, il a brisé ce mur. Il a brisé ses murs à cause de sa mort. Ce symbole-là qu'on a, c'est un symbole, quand nous cherchons à comprendre tout ce qui est derrière, il y a plusieurs types. Mais nous voyons, c'était une manière de punir les coupables de l'époque, les grands brigands. Les grands brigands, ça c'est les Romains. Bien avant les Romains, il y avait d'autres qui faisaient ça. Mais les Romains, c'était une manière, ils utilisaient pour vraiment punir les méchants, les criminels. Mais où Jésus a donné sa vie? Sur une croix. Et cette croix a uni, la mort de Jésus-Christ sur la croix, a uni les Juifs, les païens. La Bible nous dit en Romains chapitre 10, verset 12, à cause de la mort de Jésus-Christ, aujourd'hui, il n'y a ni grec, ni juif. Nous formons un seul peuple en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, en Galates, au chapitre 3, verset 28, il n'y a ni homme, ni femme. Pardon, j'explique, parce que quand je dis il n'y a ni homme, ni femme, comme aujourd'hui, notre société, vous me comprenez de quoi je veux parler? Oui, il y a homme, femme. La seule chose qu'il faut comprendre là-dedans, à un moment donné, là où un homme pouvait s'asseoir, une femme ne pouvait pas. Mais en Jésus-Christ, là où je peux m'asseoir, ma sœur peut s'asseoir à côté de moi. Là où nous avons la même appartenance, nous avons le même Seigneur, le même Jésus qui a donné sa vie pour nous. Alors, il est quelle heure, s'il vous plaît? Bon. Ah ouais, d'accord. Pour comprendre la mort de Jésus-Christ, ce qu'elle nous apporte comme délivrance la mort de Jésus-Christ, ce qu'elle nous apporte comme bénéfice, c'est que si nous lisons le verset 15, il nous dit, non seulement le mur de séparation, l'inimitié, c'est quoi l'inimitié? C'était la loi. C'est parce que la loi pesait sur nos épaules comme un poids qui nous tenait vraiment dans l'esclavage. Mais le verset 15 nous dit que, ayant anéanti par sa chair la loi et les ordonnances des prescriptions, il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix. Bien-aimé, la loi. Comprenez, le mot que nous avons vu précédemment, la circoncision, ça pesait, même dans le ministère de l'apôtre Paul, ou bien celui de Pierre, quelques personnes, quelques judaïsants, quand je dis judaïsants, c'est les partisans du judaïsme, voulaient imposer aux frères païens qu'ils devaient se faire circoncire. Mais l'apôtre Paul va nous dire, si quelqu'un se fait circoncire, ça veut dire qu'il est tenu d'appliquer toute la loi. Et je vais juste vous dire cela, vous savez que la loi nous condamnait, nous montrait notre état, mais elle ne pouvait pas nous délivrer. Heureusement, la mort, la venue de Jésus-Christ change la donne. Lorsque nous lisons l'Ancien Testament, la loi était au nombre de 613. La loi était au nombre de 613, mais en fait, est-ce que quand je dis la loi, il faut pas mélanger les choses. Il y a la loi morale, par exemple. Quelqu'un qui est conscient, on sait bien que voler, ce n'est pas bon. Quelqu'un qui se respecte, il sait bien que mentir, ce n'est pas bon. Tuer, ce n'est pas bon. Commettre l'adultère, ce n'est pas bon. Alors, si on les a fait avant d'être venus à Christ, ça c'est derrière nous. Mais maintenant, nous sommes des nouvelles créatures. Il y a des choses, nous sommes avec la grâce de Dieu, nous devons être prudents pour ne pas les faire, parce que ça, il y a des conséquences là-dedans. 613 lois, il y a la loi morale, il y a les lois civiles. Les lois civiles, c'est comme moi, conducteur, si j'ai grillé un feu, il y a un gendarme, eh ben, il va me dire, monsieur, bonjour monsieur, coupez les moteurs, présentez-moi. Vous savez, ça, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Bon, moi, ça, c'est mon truc, ça. Bon, ça, enfin, quand je dis c'est mon truc, bon, c'est des choses, à peu près, j'ai une idée. Je sais qu'il y a quelqu'un qui va venir me saluer gentiment, et puis vous me demandez le nom de ma maman, le nom de mon arrière-grand-père. Bon, ça, c'est comme ça. Bref, ils font leur travail. Je pas. S'il n'y avait pas ça, on se demande comment ça pourrait être dans notre société. Je pense que c'est logique. Ça, c'est la loi civile. Mais les lois cérémonielles, waouh! Les lois cérémonielles, c'est que vous, quand nous lisons la Bible, vous savez que si vous, avec les lois cérémonielles, si vous avez eu, par exemple, vous avez un membre de votre famille de l'époque qui était mort, vous étiez en contact, eh bien là, vous étiez bon pour être en quarantaine pendant un certain nombre de temps, 7 jours par exemple. Et il y a d'autres choses, ça pouvait être pendant un mois, les lois cérémonielles. Béni soit l'Éternel, Jésus-Christ est venu, il a brisé toutes ces choses. Et pour finir, j'aimerais que nous lisions ce texte. Entre le mot mur, je vous ai parlé tout à l'heure, ce qui était réservé, comment un païen devait se comporter face à ce mur, au temple, d'y pénétrer, c'était sous la peine des morts. Le moment, j'espère que vous n'allez pas l'oublier. Et le verset 18 nous dit quelque chose. Et il nous dit, le verset 18 d'Éphésiens, il nous dit que par lui, les uns les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Par lui, nous avons, par lui, les uns les autres, nous avons accès, par lui, les uns les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Sinon, comprenons bien ce texte, nous voyons, il y a la Trinité qui est dans ce texte. Par lui, il s'agit de Jésus-Christ. Si nous nous souvenons bien que avant, entrer dans les temples, c'était chose impossible. Un païen n'avait pas accès. Mais aujourd'hui, en Jésus-Christ, à chaque fois que vous avez à vous présenter devant Jésus-Christ, mettez ça en tête, devant le Père. Dites-vous bien, de par vous-même, de par nous-mêmes, non. Il faut se rappeler, c'est par les mérites et par l'obéissance de Jésus-Christ. Mettez ça en tête. C'est par les mérites et l'obéissance de Jésus-Christ, vous et moi, nous pouvons nous approcher du Père. Si vous regardez la distance de la sainteté de Dieu par rapport à nous, franchement, la sainteté de Dieu par rapport à nous, je ne sais pas, mais pour moi, je me rappelle en mathématiques, c'est, comment on appelait ça de l'époque, division. Il y a quelquefois, quand on fait une division, je crois qu'il y a, quatre façades là-dedans, il y a dividende, diviseur. Souvent, il y a le nombre à gauche, il est supérieur. Bon, ça fait longtemps, hein. Mais quand le nombre, il y a un nombre, quand il est supérieur par rapport à celui de l'autre côté, il fallait mettre un zéro et une virgule pour rajouter, pour pouvoir effectuer, pour pouvoir résoudre cette opération. Qu'est-ce que j'ai envie de dire par là? C'est pour vous dire, pour nous dire à nous, c'est-à-dire que devant la sainteté de Dieu, vous, moi, quel mérite avons-nous? Comment pouvons-nous nous y approcher? C'est par les mérites, c'est pas des paroles en l'air, hein? C'est par les mérites et par l'obéissance de Jésus-Christ seul. Nous n'avons aucun mérite, quoi que nous puissions faire, il n'y a rien qui peut nous donner accès pour nous approcher de la personne de Dieu. Je vais terminer par là, en vous proposant de lire un texte qui se trouve en Actes, en chapitre 21. Et vous allez voir quel a été ce qui s'était passé à l'apôtre Paul pour vous dire qu'un païen n'était pas bienvenu. Actes 21. Alors, le texte nous dit, vous n'avez pas lu tout le chapitre, vous allez avoir du mal pour comprendre de quoi il s'agit exactement, mais il faudrait lire tout le chapitre pour comprendre. Mais moi, je vais vous le lire, c'est juste pour vous dire le contenu, en fait, ce qui s'était passé. Le texte nous dit, Acte 21, verset 28-29. En criant, homme israélite, au secours, voici l'homme qui prêche partout et à tout le monde contre le peuple, contre la loi et contre ce lieu. Il a même introduit des Grecs dans le temple et a profané ce saint lieu. Vous comprenez quelque chose, hein? Vous comprenez quelque chose? Je reprends. En criant, homme israélite, Au secours, voici l'homme qui prêche partout et à tout le monde contre le peuple, contre la loi et contre ce lieu. Il a même introduit des Grecs dans le temple et a profané ce saint lieu. Et ils avaient vu auparavant Trophime d'Éphèse avec lui dans la ville, et ils croyaient que Paul l'avait fait rentrer dans les temples. Vous comprenez ça? Il s'agit de Trophime, c'était un Grec, un païen, et les Juifs qui étaient fortement, farouchement opposés. Un païen n'avait pas le droit d'entrer dans le temple, et que voilà, sous, je ne sais trop, mais juste une intuition, parce que Paul et Trophime, on les avait vus à travers les rues, tout à coup, il se faisait une idée de dire que Paul l'avait fait rentrer dans le temple. Un mot important, profané, verset 28, c'est pour vous dire que comment nous n'étions pas bien vus. Il a même introduit, parlant de Paul, il a même introduit des Grecs dans le temple et a profané le saint lieu. Nous avons beaucoup à dire de ça parce que, rappelez-vous, même Pierre, lorsque Pierre a prêché l'évangile, l'apôtre Paul a prêché l'évangile, beaucoup étaient dressés contre eux pour dire que les païens, c'était des gens de seconde zone. Mais une chose, pour conclure, au verset 18, aujourd'hui, les uns, par lui, les uns, les autres, nous avons accès auprès du Père dans ce même esprit. C'est grâce à Jésus-Christ. C'est grâce à Jésus-Christ, toi, moi, nous, si nous pouvons nous adresser à Dieu le Père, c'est grâce à Jésus-Christ sous la conduite du Saint-Esprit. Espérons que le Seigneur puisse vous bénir au travers de ces paroles pour sa gloire. Amen.